Reconnaissons par conséquent que ces deux parties se trouvent dans l'âme, mais celle qui est le siège de la colère et qui cause en nous le courage, forme-t-elle une troisième partie ou rentre-t-elle dans l'une des deux autres? Peut-être rentre-t-elle dans la partie qui est le siège du désir? On m'a dit une chose que je crois vraie. La voici. Léonce, fils d'Aglaïon, revenant un jour du Pirée, le long de la partie extérieure de la muraille septentrionale, aperçut des cadavres étendus sur le lieu des supplices. Il éprouva le désir de s'approcher pour les voir, avec un sentiment pénible qui lui faisait aussi détourner les regards. Il résista d'abord et se cacha le visage. Mais enfin, cédant à la violence de son désir, il courut vers ces cadavres et, ouvrant de grands yeux, il s'écria: « Eh bien, malheureux, rassasiez-vous d'un si beau spectacle! » J'ai entendu raconter ce trait. C'est une preuve que la colère s'oppose quelquefois en nous au désir, comme à une chose distincte de lui. Oui, c'en est une preuve. Ne remarquons-nous pas aussi en plusieurs occasions que, lorsqu'on se sent entraîné par ses désirs malgré la raison, on se fait des reproches à soi-même, on s'emporte contre ce qui nous fait violence intérieurement, et que dans ce conflit qui s'élève comme entre deux personnes, la colère se range du côté de la raison. Mais qu'elle se soit jamais mise du côté du désir, quand la raison prononce qu'il ne faut pas faire quelque chose, c'est ce que tu n'as jamais éprouvé en toi-même, ni remarqué dans les autres. Non, par Jupiter. N'est-il pas vrai que, quand on croit avoir tort, plus on a de générosité dans les sentiments, moins on peut se fâcher. Quelque chose que l'on souffre de la part d'un autre, la faim, la soif ou tout autre tourment semblable, lorsqu'on croit qu'il a raison de nous traiter de la sorte. Qu'enfin, comme je l'ai dit déjà, la colère en nous ne saurait s'élever contre lui. Cela est vrai, oui. Et qu'au contraire, si l'on se croit victime d'une injustice, alors on s'enflamme, on s'irrite, on combat pour ce que l'on regarde comme la justice. On supporte, sans se laisser abattre, la faim, la soif et tous les autres tourments qu'on éprouve. Et l'on ne cesse pas de faire de généreux efforts jusqu'à ce qu'on en obtienne satisfaction ou qu'on succombe, ou que, rappelé à soi par la raison, toujours présente en nous, on se soit apaisé comme le chien sous la main du berger. Cette comparaison est d'autant plus convenable que nous avons établi que, dans notre état, les guerriers doivent être soumis aux magistrats comme des chiens à leur berger. Tu comprends fort bien ce que je veux dire. Mais encore, fais cette réflexion. Laquelle, Socrate? C'est que la colère est évidemment tout autre qu'elle ne nous a paru d'abord. Nous pensions qu'elle se rapportait à la partie de l'âme qui est le siège du désir. Maintenant, nous sommes bien éloignés de le dire. Nous dirions plutôt que lorsqu'il s'élève quelque sédition dans l'âme, la colère prend les armes en faveur de la raison. Tout à fait, Socrate. Est-ce comme étant différente de la raison, ou comme étant seulement une des formes de celle-ci, de sorte qu'il n'y ait dans l'âme que deux parties, l'une siège de la raison, l'autre du désir. Ou bien, de même que notre état est composé de trois ordres, des mercenaires, des guerriers et des magistrats, y a-t-il dans l'âme une troisième partie où réside la colère, et qui est l'auxiliaire naturel de la raison, à moins qu'elle n'ait été corrompue par une mauvaise éducation. La colère forme nécessairement cette troisième partie, Socrate. Oui, sans doute. Si elle se montre distincte de la raison, comme elle s'est montrée distincte de la partie qui est le siège du désir. Cela n'est pas difficile à reconnaître. Nous voyons que les enfants, aussitôt qu'ils sont nés, sont déjà pleins d'irritabilité, que la raison ne vient jamais à quelques-uns, et qu'elle vient tard, au plus grand nombre. Tu dis vrai. On peut encore s'en assurer en voyant ce qui se passe chez les animaux. Outre cela, le vers d'Homère que nous avons cité peut servir de témoignage. Ulysse, se frappant la poitrine, réprimande ainsi son âme. Il est évident qu'Homère représente ici une faculté qui, réfléchissant sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, gourmande une autre faculté qui s'irrite déraisonnablement, c'est-à-dire deux facultés différentes. Très bien, oui. Enfin, nous sommes parvenus, à travers bien des difficultés, à tomber d'accord suffisamment qu'il y a dans l'état et dans l'âme d'un individu des parties correspondantes et égales en nombre. Oui. N'est-ce pas maintenant une nécessité que l'individu soit prudent de la même manière et par le même endroit que l'État? Oui. Que tous deux soient courageux de la même manière et par le même endroit. Enfin, que tout ce qui contribue à la vertu se rencontre dans l'un comme dans l'autre. Sans doute. Ainsi, nous dirons, je pense, mon cher Glaucon, que ce qui rend l'État juste rend également l'individu juste. C'est une conséquence nécessaire, oui. Nous n'avons pas non plus oublié que l'État est juste lorsque chacun des trois ordres qui le composent remplit le devoir qui lui est propre. Je ne crois pas que nous l'ayons oublié. Souvenons-nous donc que, lorsque chacune des parties de nous-mêmes remplira le devoir qui lui est propre, alors nous serons justes et nous remplirons notre devoir. Il faut nous en bien souvenir, oui. N'appartient-il pas à la raison de commander, puisque c'est en elle que réside la sagesse, et qu'elle est chargée de veiller sur l'âme tout entière? Et n'est-ce pas à la colère d'obéir et de la seconder? Oui, Socrate. Et n'est-ce pas le mélange de la musique et de la gymnastique dont nous parlions plus haut qui mettra un parfait accord entre ces deux parties, nourrissant et fortifiant la raison par de beaux discours et par l'étude des sciences, relâchant, apaisant, adoucissant la colère par le charme de l'harmonie et du nombre. Assurément, ces deux parties de l'âme ayant été ainsi élevées, instruites et exercées à remplir leurs devoirs, gouverneront la partie où siège le désir, qui occupe la plus grande partie de notre âme et qui est insatiable de sa nature. Elles prendront garde que celle-ci, après s'être accrue et fortifiée par la jouissance des plaisirs du corps, ne sorte de son domaine et ne prétende se donner sur elle une autorité qui ne lui appartient pas et qui troublerait l'économie générale. Assurément, oui. En présence des ennemis du dehors, elles prendront les meilleures mesures pour la sûreté de l'âme et du corps. L'une délibérera, l'autre, soumise à son commandement, combattra, et secondée du courage, exécutera ce que la raison aura résolu. Oui, Socrate. Et nous appelons l'homme courageux lorsque cette partie de l'âme où réside la colère suit constamment, au milieu des peines et des plaisirs, les ordres de la raison sur ce qui est à craindre ou ne l'est pas. Bien. Nous l'appelons prudent à cause de cette petite partie de son âme qui a exercé le commandement et donné ses ordres, qui possède en elle-même la science de ce qui convient à chacune des trois parties et à toutes ensemble. Sans contredit. Et tempérant par l'amitié et l'harmonie qui règnent entre la partie qui commande et celle qui obéissent. Lorsque ces deux dernières demeurent d'accord que c'est à la raison de commander et ne lui disputent pas l'autorité. La tempérance, oui, Socrate, dans l'état comme dans l'individu, n'est pas autre chose. Enfin, il sera juste par la raison, et de la manière que nous avons plusieurs fois exposée. Nécessairement, oui. N'y a-t-il plus rien qui offusque notre vue et empêche la justice de paraître la même dans l'individu qu'elle s'est montrée dans l'État? Je ne le crois pas. S'il nous restait quelques doutes, nous le ferions bientôt disparaître en lui opposant des conséquences absurdes. Quelles sont ces conséquences, Socrate? Par exemple, supposons, à l'égard de notre état et de l'individu formé sur son modèle par la nature et par l'éducation, que nous ayons à examiner entre nous si cet homme pourrait détourner à son profit un dépôt d'or ou d'argent. Personne le croirait-il plus capable d'une telle action que ceux qui ne sont pas, comme lui, formés sur le modèle d'un état juste? Nullement, Socrate. Ne sera-t-il pas également incapable de piller les temples, de dérober, de trahir ses amis ou sa patrie? Oui, Socrate. De manquer en aucune manière à la foi jurée et à tous ses autres engagements. Sans doute. L'adultère, le manque de respect envers les parents et de piété envers les dieux sont encore des fautes dont il se rendra coupable moins que personne. Oui. La cause de tout cela, n'est-ce pas que chacune des parties de son âme remplit son devoir, qu'il s'agisse de commander ou d'obéir. Il n'y en a pas d'autre. Mais la justice est-elle à tes yeux autre chose que cette puissance qui rend tels et les hommes et les états? Non. Nous voyons donc maintenant, tout à fait réalisé, ce qui d'abord ne nous apparaissait que comme un rêve. Ayant à peine jeté les fondements de notre état, nous avons rencontré, grâce à quelques divinités, le commencement et comme un modèle de la justice. Il est vrai, oui.